RMC Intégral Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'Intégral Tour et dans le studio sur cette arrivée magnifique à Rouen, ensoleillée. Cette fois, on a l'impression qu'on a basculé véritablement dans le vrai Tour de France, celui du mois de juillet. Fini la pluie, 174 km au programme, un dénivelé de 2000 mètres parce que même si c'est la Normandie, eh bien, ce n'est pas plat du tout. Les coureurs sont partis à 13h15, une arrivée prévue vers 17h30. Il se passe déjà des choses sur la route du Tour. La Somme, l'Oise, la Seine-Maritime et l'heure sont au programme de l'Intégral Tour. Être à l'heure, ça sera d'ailleurs le défi de toute l'équipe. Et malheureusement, il y a déjà deux forfaits pour cette journée magnifique et une étape au final très bosselée avec cinq côtes et le final ici, boulevard 10h, où nous nous trouvons. On a perdu un reporter ce matin, Kevin Morand, et puis le chef, Christophe Cessieux, qui lui, à cette heure de la sieste, est certainement membre de l'équipe Tudor, mais sans Alaphilippe. Heureusement, les costauds sont là, à commencer, honneur aux dames, par Maria Azé, bien au chaud ici dans notre studio. On mettra peut-être la clim hein, d'ailleurs tout à l'heure, ça commence à chauffer. Bonjour Maria.
Bonjour Pierre, bonjour tout le monde.
Tu retrouveras ta moto quand tu seras en direction de tes terres bretonnes.
De mes terres bretonnes, exactement. Je ne remonte dessus que pour mes terres.
Voilà, et puis tu attends que la canicule arrive en Bretagne. Et ça va venir d'ici peu. On a à côté de toi un Jérôme Coppel qui est, lui par contre, un petit peu au bout du rouleau qui promène depuis le début de ce Tour de France. Ça va mieux, ça a l'air d'aller mieux quand même, Jérôme.
Salut Pierre-Yves, salut à tous. Ça va mieux,
Tour,
tu sais, moi, la veille des chronos, je suis toujours bien en général. Je suis sur la pente ascendante. Exactement, sur mon terrain.
Oui, d'ailleurs, tu seras carrément sur le terrain demain pour ce cancan. Ça sera le contre-la-montre.
Exactement, je serai sur la moto demain pour le chrono.
Un premier moment important, évidemment, même si on a déjà eu. Et puis, je vous ai écouté, moi, hier, parce que j'étais en repos, comme Christophe et Kevin. Aujourd'hui, j'étais très attentif aux performances de chacun. Alors il fallait faire un choix pour savoir qui aurait le privilège d'aller sur la moto aujourd'hui avec tout le matériel, le casque, les bottes, le blouson. Et on vous propose un document, c'est le moment où ce matin le nom du gagnant a été choisi à la conférence de rédaction. Écoutez bien.
Pino.
Oh non, chef, pour moi, je vous préviens, je rentre pas chez moi en tenue. Non, je tiens pas à me faire écharper, vous savez pas où j'habite, moi. Chez moi, c'est la tour de Babel dans la cour des miracles, alors je veux qu'on me raccompagne. Chez moi, en bas, à ma porte.
C'est ça.
Ah non.
Ah ouais, Pino. C'est Pino qui a été choisi. Jérôme Pino sur la moto avec Jean-Marc. Comment allez-vous, messieurs? Comment vas-tu, Jérôme? Un grand moment du cinéma, hein, évidemment. Écoute, Pino, simple flic.
Exactement.
Cinéma,
le mien
Jérôme
était,
en connaît rien.
Douanier.
Ah oui.
Exactement. Ça commence. Tu vois, il est 14h, à peine 14h10, et la première banderie de Jérôme Coppel vient d'être placée. Eh bien, écoute, ça va plutôt pas mal. On est à la sortie de Crèvecœur le Grand, avec le petit Marco. On est gentiment installé sur le bord de la route. On attend tout simplement les échappés qui vont bientôt passer devant nous. Et on va reprendre la route du Tour vers mon pays, vers la Normandie, mon pays natal. Rouen, quelle belle ville, Rouen. Vous êtes bien là-bas, non?
On est très bien. Il y a un peu de vent, tu nous en reparleras quand même. Mais comme tu le disais, il y a des échappés dans cette quatrième étape du Tour de France. Donc on va faire un premier top course avec Maria pour savoir ce qui s'est passé depuis le départ de cette étape qui comptait 174 km. Le top course avec Maria.
Oui, Pierre, 147 km de l'arrivée. Déjà une échappée ce matin. Pas comme hier, on va un peu plus s'amuser aujourd'hui. Quatre coureurs dans l'échappée, dont le français Lenny Martinez, un peu en difficulté depuis ce début de Tour de France. On a trois autres coureurs, le français Thomas Gachignard, Jonas Abrahamsen, qu'on a beaucoup vu sur le Tour 2024 dans les échappées. Et enfin, Casper Asgreen, le coureur d'IF.
Donc si tu as à choisir tout à l'heure pour le prix de la combativité, ça arrive souvent que ce soit celui qui a déclenché l'étape ou alors celui qui est le dernier à rester en vie, entre parenthèses. On verra qui peut s'en sortir. Mais là, c'est Lenny Martinez qui a attaqué le premier, hein, c'est ça.
Ce serait bien, Lenny. J'aimerais beaucoup voter pour Lenny Martinez.
Ouais. Jérôme, tu as été surpris de le voir attaquer là, hein.
J'ai été très surpris de le voir attaquer là. D'une, parce que ces deux derniers jours, même si hier ça allait un peu mieux que le premier jour, il ne nous avait pas donné non plus des garanties exceptionnelles, mais surtout parce que c'est pas vraiment un profil qui lui convient aujourd'hui. Le final, bien sûr, lui convient un peu mieux, hein. C'est un final de puncher, même si Lenny est un pur grimpeur. Voilà, il aurait eu plus de matière à s'exprimer dans le final, mais je pense que c'est l'occasion pour lui de reprendre le tour par le bon bout. On sait que le premier jour, il a passé quasiment plus de temps dans les voitures que dans le peloton. Hier, ça allait un petit peu mieux. Est-ce qu'il a pris une petite soufflante par ses managers et ses directeurs sportifs? Peut-être. C'est toujours mieux sur le tour, même sur une étape qui ne vous convient pas forcément, d'être acteur que spectateur. Voilà, il est devant, ça va le remettre dans le bon sens, signe sûrement que les jambes sont bonnes. En tout cas, il a retrouvé l'envie, les nids, et ça, c'est le principal.
Et il a été suivi rapidement par un autre garçon qu'on connaît bien, notamment par ses performances l'année dernière, Jonas Abrahamsen. On aura l'occasion de reparler du profil du garçon, parce qu'il lui est arrivé quand même des choses assez incroyables. On ne pensait pas qu'il serait sur le Tour de France. Exactement. Et puis, deux autres hommes se sont aussi insérés dans cette échappée, le Français Thomas Gachignard, un habitué aussi de ce genre d'aventure, et le dernier, on le connaît bien aussi, Jérôme, bien, c'est Casper Asgreen, et il vient de rentrer il y a quelques instants.
C'est vrai que Lenny Martinez et Abrahamsen sont sortis quasiment au kilomètre zéro les deux ensemble, et après un petit peu à contre-temps Gachignard, et encore après Casper Asgreen, il est sorti, il y avait quand même 1 minute 45 de retard. Donc voilà, c'est un spécialiste du contre-la-montre, Casper Asgreen. Il s'est très, très bien roulé fort, mais il a mis quand même un petit peu de temps à rentrer, même si ses trois compagnons d'échappée l'ont un petit peu attendu. Mais voilà, c'est aussi Casper Asgreen, un habitué de ses échappées au long cours. On rappelle qu'au Tour de France 2023, il était parti dans une échappée que nous, on pensait vouée à l'échec, et finalement, il avait réussi à damer le pion au meilleur sprinter et à gagner l'étape qui arrivait à Bourg-en-Bresse.
Et derrière, ça s'est organisé. Avant de retourner voir Jérôme Pinault, un petit coup d'œil sur l'avant du peloton. Quelle est l'équipe qui emmène la chasse avec 2 minutes de retard? C'est peut-être celle du maillot jaune, tout simplement.
Bon, bien sûr, sans surprise, alors pour deux raisons. Celle que tu viens d'évoquer, parce qu'ils ont le maillot jaune, l'équipe Alpecin de Koenig avec Mathieu Van Der Poel, et surtout parce que Mathieu Van Der Poel est, si ce n'est le grand favori, un des grands favoris avec Tadej Pogacar pour gagner l'étape ici à Rouen. Donc voilà, c'est en toute logique qu'ils roulent à l'avant. Est-ce qu'ils vont avoir un coup de main de potentiellement des équipiers, peut-être d'un Romain Grégoire par exemple, qui a des grandes ambitions aujourd'hui? Personnellement, si j'étais les adversaires de Mathieu Van Der Poel, je ne viendrais pas les aider du tout. C'est le grand favori, ils ont déjà gagné 2 étapes, Mathieu Van Der Poel en a déjà gagné 1, je les laisserai travailler pour me laisser plus de chances de le ici à Rouen.
Merci JC, Cop, Jérôme Coppel. On va aller voir JP sur la moto. Jérôme Pinault, quelles sont les conditions? Tu envisageais, toi, avant le départ, que ça bagarre pas mal pour se retrouver dans cette échappée. Il y avait aussi une configuration où il y avait des échappées et puis le peloton bloqué derrière. Comment ça s'est déroulé finalement ce début de course?
Eh bien, écoute, Pierre-Yves, on a tout de suite entendu les attaques surprises un peu de Lenny Martinez et d'Abrahamsen. Très vite rejoint par Thomas Gachignard. Casper Asgreen a mis un peu plus de temps, mais on a tout de suite vu qu'il n'y aurait pas la grosse bataille. Et tant mieux, je dirais, tant mieux pour les blessés d'hier. Et on pense notamment à Emilien Janière, à Paul Penouet, à Brian Coquard, pour ne citer que les Français, parce que depuis le départ, le vent est 3/4 d'eau, un vent assez fort qui souffle dans le dos de la droite des coureurs, qui aurait pu provoquer, si ce n'est des bordures dès le départ, mais en tout cas quelques cassures dans le pneu. Je dis que heureusement pour les blessés que le peloton a décidé de laisser ces 4 coureurs s'échapper pour essayer de se batailler plutôt dans le final de la course, comme Jérôme l'a expliqué, parce que on est sur des routes très larges, très dégagées, au milieu des champs de blé, avec un fort vent qui vient de 3/4 arrière. Et comme Maria le sait si bien, le vent 3/4 arrière peut provoquer des cassures et des bordures. Donc il était important pour les coureurs un peu malades, un peu blessés, que l'échappée parte vite.
On en voit du vent, on en voit des drapeaux qui bougent. Effectivement, Jérôme, sur le bord de la route, on va voir. À quel moment, toi qui connais bien le terrain, à quel moment ça devient vraiment un petit peu plus bosselé? Les 50 derniers kilomètres, on va en parler dans quelques instants. Là, il y a vraiment de bonnes bosses, de bonnes côtes. Est-ce qu'avant, déjà, c'est tout plat, ou est-ce que ça monte, ça descend un petit peu déjà?
Ouais, le départ est un peu vallonné, mais ça va commencer à se corser à peu près au kilomètre 107, 108 kilomètres. On va passer la commune de Cuverville, et là après, ce seront des grands toboggans. On va aller plus on va se rapprocher de la métropole de Rouen, de l'arrivée, et plus le terrain va être propice au mouvement. Et en tout cas, La seule chose que l'on peut dire sur cette étape, c'est que c'est une expression qu'on utilise souvent dans le vélo, c'est mal plat. C'est-à-dire que c'est le long toboggan, en haut, en bas, c'est casse-pattes. Mais ça peut aussi faire très mal lorsqu'on traîne à l'arrière. On a vu quelques coureurs s'arrêter pour se soulager, en tout cas faire la pause de besoin naturel. Et on a vu très vite que derrière, c'était très difficile à reprendre sa place parce que ce vent est très gênant. Alors évidemment, à partir des Andelys, c'est-à-dire au kilomètre 95-100, là, on va tourner à droite et on va reprendre un vent défavorable, ce qui va ralentir le peloton. Il n'y aura plus ces problèmes de vent travers. Mais c'est à ce moment-là aussi que la route va commencer à être un peu plus difficile. Donc l'étape va pas être simple. Alors c'est le calme plat dans le peloton pour le moment, mais ça va pas l'être très longtemps.
Oh, vous allez vous régaler dans ce quartier. Les Andelys, c'est magnifique. La vallée de la Seine, les châteaux, ça va être superbe. Quelle chance. T'as bien fait d'être tiré au sort ce matin, hein, Jérôme. Franchement, t'as eu de la chance. Puis il fait pas trop chaud, donc c'est bien. C'est parfait. On va justement faire un petit focus.
Dans condition parfaite pour faire de la moto.
Voilà, exactement. On fait un focus, nous, sur ces 50 derniers kilomètres où il va se passer sans doute beaucoup de choses. On verra, c'est aussi un hommage historique. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure à de grandes figures du vélo et du Tour de France, des champions français, en l'occurrence Jacques Anquetil et Robic. Et c'est vrai que la première difficulté, Maria, porte d'ailleurs le nom de la côte Jacques Anquetil.
Oui, tout à fait. Elle est située à 46 kilomètres de l'arrivée. Cette côte, ce sera la première difficulté de cette étape. Alors, difficulté, pas non plus énorme difficulté, hein. On est sur 3,5 km à 3,6%, mais ça va être l'occasion de se chauffer un petit peu les jambes, tout au long de ces 50 derniers kilomètres qui vont être plutôt dynamiques, parce qu'après il y aura 4 autres difficultés avant cette arrivée ici à Rouen.
Avec un sprint intermédiaire juste après cette côte, donc il y aura aussi un peu de mouvement là, très certainement, surtout avec ce qui s'est passé hier. On va voir ceux qui ont envie d'y retourner, Jérôme.
Bien sûr, on a vu que depuis le départ de ce Tour de France, les sprints intermédiaires, les points plus précisément des sprints intermédiaires sont très disputés. Et là, sur cette étape, le sprint intermédiaire, il va vraiment marquer un tournant, si j'ose dire, parce que tout de suite après, on va être vraiment sur des toutes petites routes très étroites, et il faudra absolument que les leaders, ou en tout cas ceux qui veulent se disputer la victoire ici à Rouen, soient bien placés au pied de la côte de Belbeuf, parce que c'est un virage à 90 degrés sur la droite, une toute petite route, et après ça sera le cas jusqu'à l'arrivée. Ce sera vraiment des petites routes un peu vire-vire, donc le placement va être très très important dans le final de l'étape.
C'est un peu un final Milan-San Remo, quoi.
Un peu. Du coup, tu étais en train de nous donner ton favori indirectement.
Non, c'est pas Milan-San Remo.
d'accord.
Et il y aura seulement 3 km entre ce sprint intermédiaire et la côte de Belbeuf. Donc voilà, ça va être très très court avec des routes très étroites.
Et puis cette rampe Saint-Hilaire également au menu derrière, qui a l'air très très costaud, très difficile.
Ah, ça c'est un beau petit chantier. Alors elle est pas très longue, mais elle est très très raide. Et surtout après, sur le sommet, il y aura un tout petit plateau, mais après les coureurs vont tout de suite plonger direction la ligne d'arrivée, et voilà, 800 mètres de la ligne d'arrivée, ça va remonter un petit peu avant de se raplanir avec un virage à droite à 200 mètres de la ligne d'arrivée, mais il y aura de nouveau un petit coup de cul là dans les 800 derniers mètres. Donc quelqu'un de très costaud qui arriverait à sortir dans cette rampe Saint-Hilaire pourrait aller tout seul jusqu'à l'arrivée. Alors il faut bien sûr avoir un très bon punch, avoir des grandes qualités de descendeur et pouvoir tenir ensuite en gardant une puissance très élevée jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais dans ces grandes années, hein, Julien Alaphilippe par exemple, c'était tout à fait un profil qui lui convenait. On a vu à l'arrivée dimanche dernier qu'il était très fort, et il a dit lui-même qu'il avait des sensations, donc s'il a retrouvé un petit peu ces sensations-là, c'est sur le papier un profil qui correspond très bien à notre Français.
Et puis l'arrivée, Maria?
Tout à fait, cette arrivée, il le disait Jérôme, alors il y a quand même cette rampe Saint-Hilaire, hein. C'est 800 mètres à 10,6% avec des passages à 15%, donc si Tadej Pogacar se décide à mettre une grosse accélération, pas sûr que Mathieu Van Der Poel, ton favori du jour, Pierre-Yves.
J'ai rien dit, on verra pour les paris tout à l'heure.
Passe, on verra bien, ce sera à 6 km de l'arrivée, donc il y a encore un petit peu de temps, et puis comme le disait Jérôme, ça va arriver très vite jusqu'aux 800 mètres avant l'arrivée, puis environ 600 mètres de pente moyenne à 3,5% avant un virage à droite, et puis ça descendra, en faux plat descendant jusqu'à l'arrivée à Rouen.
Ça nous a semblé moins difficile ce final qu'on pouvait l'imaginer en le voyant, Jérôme, tout à l'heure.
Alors là, dans le dernier kilomètre, ouais. Tu veux dire? Oui, alors c'est vrai que quand on arrive en voiture, on a vraiment l'impression que ça se redresse d'un seul coup, mais il ne faut pas oublier que les coureurs arriveront de la descente, même s'il y a un virage à 1 km de l'arrivée, ils arriveront quand même avec un peu d'élan. Donc comme a dit Maria, il y a 600 mètres de montée, mais ils vont déjà en faire sur l'élan, ils vont déjà faire un bon petit bout de chemin. Par contre, il y a ce virage à droite à 200 mètres, un bout de plat, et l'arrivée, la ligne d'arrivée est un peu en faux plat descendant. Donc ça, niveau sprint, ça change aussi un petit peu la stratégie, parce que si on arrive de l'arrière, on arrive souvent avec l'aspiration, avec un petit peu plus de vitesse. Donc le sprint final, bien sûr, ça ne sera pas un sprint massif, hein, avec toutes les difficultés qu'il y aura avant, mais si un petit groupe se présente ici sur la ligne d'arrivée à Rouen, il faudra jouer stratégique pour l'emporter.
Merci Jérôme. Petit coup d'œil juste avant de se replonger dans cette journée d'hier. Un petit coup d'œil avec toi Jérôme sur ces échappées. Tu en es tout proche, j'imagine. Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu vois chez ces garçons? Ce sont des garçons qui ne sont pas tombés, qui n'ont pas été touchés, à part peut-être mentalement pour Lenny Martinez.
Ouais, tout à fait. On se trouve juste derrière l'échappée. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une échappée les Dalton, parce qu'ils sont les uns derrière les autres. Il y a du tout petit Lenny Martinez, de Thomas Gachiniard, puis Abrahamsen, puis Kasper Asgreen. Lenny Martinez va être bien hein, dans la roue de Kasper Asgreen. S'il met bien les mains en bas du guidon, va prendre beaucoup d'air. Les quatre hommes, évidemment, s'entendent parfaitement. Des relais un peu longs, pas trop soutenus pour débuter cette échappée, évidemment. Jérôme vous expliquera ça aussi très bien. Quand l'échappée s'en va, on passe des longs relais pas trop soutenus, et plus on s'approche de l'arrivée, plus on doit accélérer, plus les relais sont courts et intenses. Pour l'instant, ça s'entend très très bien. Lenny Martinez a un joli coup de pédale, il a un bien meilleur coup de pédale que la première étape, c'est de bon augure. On essaiera d'aller voir son directeur sportif Javier Florencio, avec qui j'ai couru chez Bouygues Télécom, pour nous demander un peu si c'était prévu ce matin ou si c'est Lenny qui a souhaité un peu prendre les devants et ne plus subir la course.
Merci Jérôme. Bah, on se replonge dans l'étape d'hier, au moment où on voit que certains coureurs sont encore à faire des petits soins du côté de la voiture médicale. C'est le cas de Jordi Meus, hein, le sprinter là actuellement, qui a été touché, et pour cause. On a vécu un final hier notamment, et aussi un sprint intermédiaire très chaotique. C'était précédemment dans l'Intégral Tour.
Précédemment dans l'Intégral Tour sur RMC.
Bonjour à tous, bienvenue sur la route du Tour de France. Troisième étape aujourd'hui de la grande boucle. Le peloton qui s'est lancé de Valenciennes en direction du Nord, le Grand Nord, direction Dunkerque. Nous allons donc vivre cette étape de 178 km. Oh là, chute de Philipsen. Gasper Philipsen, le maillot vert, bien pluché, avec l'épaule droite entamée. Il se tient l'épaule. Je pense que le Tour de France de Gasper Philipsen va malheureusement s'arrêter là. Les deux premiers jours de l'équipe Alpecin avait été un véritable rêve, et eh bien le rêve se transforme en cauchemar. 47 derniers kilomètres de cette longue, très longue étape, sans aucune échappée. 33 derniers kilomètres de cette troisième étape du Tour de France, avec la seule difficulté du jour, classée en quatrième catégorie, le Mont Cassel, 2,3 km d'ascension, avec une pente moyenne de 3,8%, et un homme seul en tête.
Ouais, Tim Wellens, en effet, le coéquipier de Tadej Pogacar, qui est en plein dans ce Mont Cassel, qui est sorti tout seul pour aller récupérer ce maillot à poids.
C'est l'Alpe d'Huez du Nord, là. Il y a un monde fou dans ce Mont Cassel.
On approche enfin du terme de cette troisième étape qui n'aura pas marqué les esprits en termes d'événements sportifs.
RMC, la flamme rouge.
Jonathan Milan, Mirlir ou alors Binyan Girma, ils sont 20. Tous les fauves du sprint sont lancés à maintenant 800 mètres de la ligne d'arrivée.
Il la veut, Jonathan Milan, cette étape, on la voit. On le voit, le monstre de ce peloton. Jonathan Milan qui lance.
Ah oui, Milan et Mirlir.
Jonathan Milan, Tim Merlier, ça va se jouer entre les deux. Jonathan Milan qui donne tout, et c'est, je pense, Jonathan Milan.
Ah, c'est Merlier qui lève le bras. Qui lève le bras. Tim Merlier, le coureur de la formation Soudal Quick-Step, ça s'est joué à rien.
RMC, Intégral Tour.
Ça s'est effectivement joué à rien, quelques centimètres, peut-être même quelques millimètres, quelques
4 millimètres. 4 millimètres, exactement.
Ah, on a le chiffre 4 millimètres.
Ça s'est joué à rien du tout.
Ça s'est joué à rien.
Ça hein, doit être une des arrivées les plus
Il y a déjà dû avoir plus serré, mais c'est vrai que c'était difficile de savoir tout de suite à l'arrivée le vainqueur. Ouais.
Effectivement. Mais ça nous donne une petite idée dans ce premier match massif des sprinteurs, peut-être de celui qui vient de prendre l'ascendant?
Oui, alors entre les deux, parce que malheureusement depuis le départ du Tour, on n'a jamais eu, et on n'aura pas maintenant jusqu'à Paris, vraiment tous les meilleurs sprinteurs du monde sur une arrivée massive, puisque la première étape, il y a eu ce coup de bordure, donc certains sprinteurs ont été piégés, et sur l'arrivée d'hier remportée par Tim Merlier, Philippe Sen a dû abandonner sur chute, Jordi Meus n'a pas pu prendre part au sprint parce qu'il a chuté aussi à quelques kilomètres de l'arrivée. Mais entre les deux grands favoris que sont Milan et Merlier, Merlier a pris un petit ascendant. Tout ça sans vraiment d'équipier, sans vraiment de train. Il s'est vraiment débrouillé tout seul. Tim Merlier, il a vraiment sauté au dernier moment. On rappelle que sur l'arrivée d'hier, il y avait vent de face. Il a vraiment débouché au très bon moment, juste pour venir sauter Milan sur la ligne, qui lui avait pu bénéficier d'un très bon train, mais battu par plus fort que lui.
On va peut-être se diriger vers la moto, parce que je crois que Jérôme essaye de se rapprocher d'un directeur sportif. Alors c'est toujours un exercice périlleux avec Jean-Marc, le pilote de la moto. Ils sont obligés de choisir le meilleur terrain, le meilleur moment, une grande ligne droite. Est-ce que c'est jouable, mon cher Jérôme ?
On y est, messieurs. Je suis en compagnie de Javier Florencio, le directeur sportif de l'équipe Bahrain Mérida, directeur sportif de Lini Martinez. On va parler en anglais. Il est timide, Xavier. Il parle très bien français, mais il est un peu timide. Xavier, what was the plan for Lini today? It was the plan in the start on the bus for Lini to go in this breakaway, or just the choice of Lini himself?
C'était le. Non, est-ce que c'était le plan que Lini part dans cette échappée? On a voulu mettre quelques coureurs dans cette échappée, Lini ou Matteo.
Alors, pour tout vous expliquer, il y a eu un problème mécanique pour Abrahamsen. En tout cas, l'équipe Nuno X a freiné un grand coup. On y revient. On va continuer cette interview tranquillement. What is the feeling for Lini now?
On l'a vu les deux premiers jours, c'était un peu compliqué.
We saw again the real Lini.
Mais là, on voit le vrai Lini aujourd'hui.
For the legs or for the head.
Est-ce que les jambes sont là et la tête est là? Il a beaucoup souffert. Mais il s'améliore jour par jour. On a vu qu'Alpecin contrôlait, donc ça va être assez difficile pour l'échapper.
Mais que Lini avait un bon moral. Merci beaucoup, Jérôme. Quel talent, hein. Il est en train de gagner des points sur la moto. Il va nous faire ça en italien, en espagnol. Hein, Jérôme, tu
vois ? Bien sûr. Il sait tout faire, notre ami GG.
Italien, espagnol, anglais. Après le reste, ça va être plus compliqué. Italien, espagnol, anglais. J'ai pas été longtemps à l'école, mais ça, j'ai retenu.
En tout cas, c'était bien d'avoir des nouvelles de Lini, effectivement, et de savoir qu'il avait meilleur moral et puis que le plan, c'était de mettre un coureur et que lui, il avait décidé d'y aller.
Ouais, c'est alors que l'équipe Bahrain Victorious veuille mettre un coureur à l'avant, ça me paraît logique qu'ils aient désigné Lini dans ce petit lot de coureurs qui devait prendre place dans l'échappée. Ça me surprend un peu plus, mais pourquoi pas. Et d'ailleurs, Lini a réussi à le faire. Ils ont parlé, Javier Florencio a parlé de Lini Martinez, de Mohoric notamment. Voilà, j'aurais plus vu sur une étape comme ça un Matej Mohoric à l'avant. C'est Lini qui a eu sa chance, et très bien pour lui, ça va le remettre en confiance. Et puis on sait que dans les étapes tout de suite à venir, demain c'est un chrono, il n'a plus rien à jouer au classement général, Lini Martinez, donc ça va presque être un jour de repos pour lui demain. Donc s'il se chiffonne un petit peu aujourd'hui, c'est pas très grave pour Lini. Le principal, c'est de retrouver la confiance, c'est un bon coup de pédale.
Très bien, merci beaucoup. Il est 14h30 sur RMC. Petite info particulière, c'est que dans l'intégral tour cette semaine, nous offrons des entrées pour le parc Astérix pour profiter des 50 attractions et spectacles. Et pour remporter aujourd'hui 4 entrées adultes pour le parc Astérix, vous envoyez parc, P-A-R-C, au 7-32-16. Parc, P-A-R-C, au 7-32-16. Dans quelques instants, on reviendra aussi sur les chutes. Évidemment, on a parlé du sprint remporté par Merlier, mais il s'est passé beaucoup de chutes, des dégâts, des abandons aussi. On refera le point et on aura le sentiment et les premières déclarations ce matin au départ pour savoir quel est l'état des troupes. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Tour.
Pierre-Yves Leroux.
La quatrième étape du Tour de France qui emmène les coureurs aujourd'hui entre Amiens et Rouen, la Normandie qui se présente dans quelques kilomètres puisqu'on est dans la Somme encore, on va avoir l'Oise, la Seine-Maritime et puis l'Eure, ça sera au moment où il restera une centaine de kilomètres, donc dans quelques minutes maintenant, ça va venir vite, ça roule à une bonne moyenne comme d'habitude et on va pouvoir revenir sur l'étape d'hier et sur les conséquences, Maria, notamment ces chutes. Il y a eu la chute au sprint intermédiaire, la chute, les chutes dans le dernier kilomètre. Quel est le bilan médical ce matin?
Alors, bon, la plus grosse chute de la journée, c'est celle de Jasper Philipsen, hein, qui était maillot vert hier, qui part dans ce sprint intermédiaire, qui se fait faucher par Brian Cocard, évidemment involontairement, et qui chute, qui se pluche sur tout le côté du dos. Conséquence, fracture de la clavicule droite et fracture de plusieurs côtes pour Jasper Philipsen, qui est rentré en Belgique, qui s'est fait opérer ce matin. Opération faite avec succès, mais forcément c'est fini sur ce Tour de France pour le sprinter d'Alpecin de Koenig. Autre grosse chute hier, sans conséquence pour l'instant énorme, mais c'est celle d'Emilien Janière de chez Total Energy. À 200 mètres de la ligne d'arrivée, il y avait une sorte de virage, et alors il s'est fait pareil, faucher, envoyé dans les barrières.
On a même eu un trio français là à ce moment-là.
Ouais, parce qu'il y a aussi Paul Penouette pris dans cette chute. Et
Brian
Cocard, évidemment.
Qui fait un soleil.
Brian Cocard qui est très très, on l'entendra je pense tout à l'heure, mais qui est très très ému après. Alors la chute, il n'en a pas beaucoup parlé, mais c'était surtout par rapport à Jasper Philipsen. Mais Emilien Janière s'est pris une énorme gamelle. On a vu une image d'un spectateur qui était juste derrière la barrière. On voit Emilien Janière arriver à toute vitesse. Il a fini par se relever, il a fini par franchir la ligne 8 minutes 45 après Tim Merlier, mais il s'est relevé. Au final, traumatisme facial, contusion multiple, mais il est quand même au départ ce matin, Emilien Janière, à voir comment il va réagir sur cette étape. Ça peut être compliqué.
Il avait une dent en moins, non ?
Bah, il paraît qu'il a la tapé les dents. Je sais pas s'il en a une en moins ou pas, mais c'est jamais facile. Le Tour de France est déjà tellement difficile quand vous prenez une gamelle comme il a pris. Là, il va passer quelques jours très très compliqués. Alors aujourd'hui, bien sûr, ça va être compliqué, mais on sait que quand on chute, c'est souvent deux jours après le plus difficile. Dans son malheur, deux jours après sa chute, ça sera le chrono, donc c'est pas très long, ça va aller. Mais voilà, c'est déjà tellement difficile que quand on chute, ça peut vite devenir un enfer, le Tour de France. On lui souhaite de se retaper au plus vite, parce qu'en plus, il avait l'air de marcher quand même vraiment bien depuis le début de ce Tour de France.
Je disais, il reste encore un peu plus de 100 km à parcourir dans cette étape. Bon, on va en profiter pour faire un petit top course, parce qu'il y a des hommes à l'avant quand même, on ne l'a pas assez dit. Il y a notamment un camarade d'Emilien Janière, le top course avec Maria.
129 km avant cette arrivée, 4 hommes en tête, Casper Asgreen, le français Lenny Martinez, le coéquipier d'Emilien Janière en effet, Thomas Gachignard, et enfin Jonas Abrahamsen, le norvégien. 129 km de l'arrivée, on approche d'un petit village nommé Choqueuse. On espère qu'il ne se passera pas trop de choc à Choqueuse, parce qu'on en a déjà eu beaucoup hier.
Oui, ça suffit. Là, déjà, la tension, la nervosité, on va en parler dans quelques instants dans le peloton, elle va peut-être petit à petit disparaître.
Plus on va se rapprocher de la montagne, des étapes difficiles, moins il y a de tension. Après, plus les coureurs sont fatigués, moins ils ont aussi envie d'aller frotter, etc. J'espère qu'on aura dans l'après-midi le temps, par contre, de revenir sur un peu toutes les polémiques qu'il y a eu ensuite. Il y a eu des cartons jaunes, il y en a qui ont accusé un peu Brian Cocard sur cette chute-là. J'aurai un bon petit coup de gueule à passer.
Tout est prévu. Ouais. Tu vas avoir l'espace pour le faire.
Merci.
Bien sûr. Et on va commencer d'ailleurs.
Je suis énervé.
Commencer par réécouter l'émotion de Brian Cocard. C'était au moment du sprint intermédiaire. Hein, il est dans cette chute avec donc Jasper Philipsen qui va être obligé d'abandonner derrière. Un Brian Cocard montré du doigt par certains coureurs, coéquipiers de Jasper Philipsen. On écoute Brian Cocard qui était très ému à l'arrivée.
Je m'attendais à ce que vous soyez tous là. Voilà, et puis je voulais pas vraiment faire le sprint final et je me suis remobilisé. Nouvelle chute, mais j'ai eu mal un peu partout. Des abrasions, mais on verra. que faire, abandonner le maillot vert, ça fait pas plaisir. J'ai regardé un petit peu les images. Pour moi, en fait, sur le moment, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai l'impression que Milan sans son sprint, peut-être que Marou avant touche son dérailleur. C'était pas mon intention de créer une chute. Je voulais pas prendre de risque. Moi, j'étais juste dans la roue à Milan et je pense que quand il a lancé, j'ai même pas l'impression d'avoir touché quelque chose.
Voilà, il était très très ému. On l'entend à sa voix un peu tremblotante.
Il avait les larmes aux yeux. On peut comprendre. C'était bien sûr pas son intention de provoquer une chute et puis ensuite d'être engueulé par les coéquipiers. En tout cas, un des coéquipiers de Mathieu Van Der Poel, plus sa propre chute à lui dans le sprint final. Enfin, c'était vraiment une mauvaise journée pour Brian Coquard. Et comme il le dit, faire abandonner n'importe qui sur le Tour de France, ça fait jamais plaisir. Et d'être accusé comme ça à tort. Et pointer du doigt, ça fait mal sur un Tour de France, ça c'est clair.
Et puis il est arrivé, il y avait une foule de journalistes devant son bus, des journalistes étrangers, des journalistes français. On nous a dit qu'il s'avait rarement vu autant de journalistes devant un bus. Donc évidemment, ça ne devait pas être une situation très très simple pour lui qui était déjà dans un sale état.
C'est sûr que pour l'équipe Cofidis, on a parlé du cambriolage des vélos. Là, on parle d'une chute et d'un abandon causé par un coureur. Ça fait pas la pub, quoi, évidemment.
Ouais, c'est un début de tour un peu compliqué pour l'équipe Cofidis, même si Benjamin Thomas a porté le maillot à poids. On rappelle que lui aussi, il a chuté en haut du Mont Cassel, justement, en essayant d'aller chercher des points pour le classement du meilleur grimpeur. Ils sont là, mais voilà, ils ont quand même un début de tour et des étapes un peu tourmentées, les coureurs de l'équipe Cofidis.
On va retourner du côté de la moto, puisque Jérôme Pinault est avec un directeur sportif. C'est à toi, Jérôme.
Ouais, en compagnie de Lilian Le Breton, le directeur sportif de Total Energy. Salut Lilian, on va commencer par prendre des nouvelles des blessés. Comment va Emilien Janière ce matin?
Il va bien. Il n'a pas forcément passé une bonne nuit, mais le bilan de ce matin était rassurant et la première heure de course fait que tout se passe bien pour le moment. Donc s'il passe aujourd'hui, demain on va essayer de bien gérer la journée, ça va aller.
Ok Lilian, donc avec cette étape, belle étape pour tracer pour Baroudeur, on sait que cette équipe Total Energy a cet ADN des échappés. On a aujourd'hui devant Thomas Gachignard qui a une bonne condition physique en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette échappée de Thomas Gachignard?
Ce qu'on peut attendre, on va voir un petit peu au fur et à mesure des kilomètres. Mais Thomas avait hâte de lancer son Tour de France. On lui a donné l'autorisation aujourd'hui d'aller se défouler et je pense qu'il l'a saisi tout de suite.
Merci Lilian, bonne journée à vous.
Merci Jérôme. Lilian Le Breton qui nous donne donc des nouvelles d'Emilien Janier. On va prendre celle de Brian Coquard puisque nos reporters ce matin ont rencontré Cédric Vasseur, le manager général de l'équipe Cofidis, qui nous en dit un petit peu plus sur le petit sprinter de Loire-Atlantique, tout comme Lilian Le Breton d'ailleurs. Cédric Vasseur.
Au réveil, il était forcément groggy. Là, dans le bus, il fait des assouplissements. Ça a l'air de pouvoir le faire, mais on a quand même regardé ensemble la chute hier. C'est vraiment une chute terrible. À deux reprises hier, hein, déjà avec Philipsen au sprint, il a évité miraculeusement cette chute, ce qu'il n'a pas pu faire malheureusement sur l'arrivée finale. Et fort heureusement, rien de cassé, complètement courbaturé. Je pense que la météo aujourd'hui va quand même l'aider à chauffer un peu le corps. Il lui faudra quelques kilomètres pour retrouver un petit peu de souplesse.
On l'a aperçu, Brian Coquard, dans les premiers kilomètres, peut-être pour effectivement faire des petits... dans ce cas-là, Jérôme, on fait des petits exercices sur le vélo. C'est pas facile parce que vous êtes bloqué avec les cales.
Oui, alors on essaye de s'assouplir comme on peut. Alors déjà, sans la chute, quand vous enchaînez des étapes à 180 km, 200 km, on a déjà toujours un peu mal à la nuque, un peu mal aux lombaires, en bas du dos, etc. Donc on fait déjà des petits assouplissements. Et là, quand vous prenez un gadin comme a pris Brian Coquard dans l'emballage final hier, vous réveillé le lendemain matin, vous avez l'impression de vous être fait rouler dessus par un camion. Donc là, il va falloir quelques kilomètres pour qu'il retrouve un petit peu de mobilité, mais il va lui falloir surtout quelques jours et peut-être jusqu'à la première journée de repos avant de se sentir de nouveau bien.
T'étais pas du tout d'accord avec le jugement de Jonas Rickard qui, après le sprint, vient tout de suite engueuler, c'est le mot, Brian Coquard en lui reprochant d'avoir fait chuter Jasper Philipsen. Ouais. Toi, tu ne vois pas ça dans les images?
Ah non, alors Alors moi je vois pas du tout ça dans les images. Alors bien sûr le coéquipier de Van Der Poel, Ricard, lui il a pas vu les images. Lui il voit que la conséquence. Il voit que Brian Coquard a fini comme un équilibriste assis sur son vélo à essayer de pas tomber et a mis par terre Philipsen. Donc il a pas l'ensemble des images que nous on a aussi. D'ailleurs petite parenthèse, il a été s'excuser ce matin auprès de Brian Coquard, le coureur de l'équipe Alpecin de Koenig. Mais pour moi la faute elle est sur personne. C'est vraiment un fait de course malheureux, mais c'est vraiment un fait de course. On a Jonathan Milan qui va lancer son sprint, qui fait un petit écart et il a donc il s'écarte un petit peu sur la droite. Brian Coquard est déjà à sa droite, donc il doit faire aussi un petit écart. Et là on a Lorenz Rex de l'équipe Intermarché qui est là. Coquard et Rex se tamponnent et ça fait chuter Philipsen derrière. Mais s'il y avait la moindre petite faute, ça serait plutôt Milan qui fait une petite vague pour lancer son sprint. Brian Coquard, il est aussi victime d'un écart. Donc moi, qu'on saute sur Brian Coquard tout de suite et qu'on, alors déjà qu'il se sentait mal, qu'on l'insulte à moitié devant tout le monde, etc., ça me rend fou. Je vais quand même lire la déclaration de Ricard. Il disait qu'il y pouvait rien. C'est pas la première fois qu'il prend trop de risques lors d'un sprint intermédiaire. Alors qu'au mieux, il peut finir sixième ou quelque chose comme ça. Qu'il sprint à l'arrivée, passe en Corse, c'est pour la victoire. Mais risquer sa vie pour 10 points, c'est complètement insensé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a que les 3 ou 4 meilleurs sprinteurs du monde qui peuvent faire les sprints intermédiaires ou les sprints aux arrivées. Et puis que si vraiment on est sympa, les plus petits coureurs, entre guillemets, des équipes plus petites, ils ont le droit d'aller venir chercher la 10e place ou la 15e place. Mais en fait, faut laisser que les grosses équipes et que les grands coureurs au départ. Et Jonas Ricard, désolé, mais c'est qui? Il existe parce qu'il a Van Der Poel et Philipsen. Ok, il faut des coéquipiers, mais t'es pas le mieux placé pour venir l'ouvrir. Donc d'abord, tu te détends, tu regardes ce qui s'est passé, et après, tu donnes ton avis. Parce que là, maintenant, oui, il a été s'excuser, bah, heureusement, c'est très bien, mais le mal est fait. Le pauvre Brian Coquard, on a entendu son interview tout à l'heure, il était en pleurs, il se sentait déjà mal, ça sert à quoi d'aller l'enfoncer? Tu tires sur un mec qui est déjà par terre. C'est n'importe quoi. Ça me rend complètement fou. C'est vraiment, il y en a quand même certains qui sont dans des très grandes équipes, qui ont des melons surdimensionnés parce qu'ils ont des très bons coureurs dans leur équipe, mais il faut qu'ils redescendent un peu les pieds sur terre. Ils font tous du vélo, on n'est pas en train de changer le monde. Donc l'idée, c'est d'aller gagner, que ça se passe tout dans la joie et la bonne humeur.
Parce que les conséquences mentales aussi sont importantes pour Brian Coquard. Écoute, Cédric Vasseur qui en parlait aussi de l'aspect psy pour son coureur.
Oui, il était forcément touché parce que quand il a passé la ligne, il savait pas bien ce qui s'était passé, il n'avait pas vu les images. Hier, quand il est rentré, il a regardé les images, on en a rediscuté et évidemment, il savait très bien qu'il n'avait aucune raison de culpabiliser sur quoi que ce soit parce que c'est un fait malheureux de course. Il a rien fait de mal. Il s'est retrouvé malheureusement au mauvais endroit, au mauvais moment. Et je veux dire, c'est aussi la chute de Jasper Philipsen qui est très mauvaise parce que si Jasper Philipsen est victime de cette chute, qu'il remonte sur le vélo, qu'il repart, on ne parle plus de cette histoire. C'est juste que cette chute, elle le contraint à l'abandon. Et là, forcément, c'est dommage. Donc, quand il passe la ligne, il culpabilise, mais quand il a revu les images, il a bien compris que il est pour rien en fait. Il est aussi victime de cet incident de course.
Et Jérôme Pinault, tu connais bien évidemment Brian Coquard, ça a été un des coureurs de ton équipe pendant plusieurs années. C'est un garçon qui connaît très bien la piste, qui sait se faufiler. C'est pas un garçon qui cherche. C'est pas un kamikaze, non?
Ah, c'est absolument pas un kamikaze. Brian Coquard fait partie des plus gentils coureurs du peloton. C'est un honorable garçon qui est très très bien élevé. C'est absolument pas quelqu'un qui cherche les ennuis, qui frotte n'importe comment. Il est propre dans le pédalage. C'est un sprinter, certes, mais parfois même presque trop gentil. Donc cette image-là de bad boy, ça me rend fou parce que c'est exactement l'inverse. Brian est un gentil. Et pour en revenir à toutes ces déclarations, Ricard met le feu. Il vient s'excuser ce matin, mais en tout cas, il a mis le feu sur les réseaux sociaux. Et on peut aussi le dire, tous ces gens qui suivent le cyclisme, qu'ils s'y intéressent, mais tous ceux qui sont là derrière un pseudonyme à insulter les gens, à leur faire du mal, parce que ça fait beaucoup de mal, parce que quand on est athlète ou comme on était comme moi un manager, on les lit, les critiques, on les lit, les choses très méchantes, ça fait beaucoup, beaucoup de mal. Alors on demande juste à ces gens-là, s'ils aiment le vélo, qu'ils le suivent avec appétit, avec un peu un œil avisé, mais s'ils sont là pour faire le buzz et critiquer les gens, qu'ils aillent se faire foutre et qu'ils fassent autre chose.
Voilà, c'était les deux les deux billets de nos consultants Jérôme Coppel, Jérôme Pinault. Pas tout à fait d'accord avec ce qui s'est passé hier et on vous comprend évidemment parce que il y a des conséquences.
Bien sûr, il y a des conséquences physiques, bien sûr, psychologiques, mais il n'y a pas que ça que j'ai pas compris sur l'étape d'hier. Hein. Il y a eu une flopée de cartons jaunes, dont un. Ah ben voilà, Coca.
Parce qu'il y a eu quand même des conséquences aussi de la part des commissaires. On a sanctionné, alors on va réexpliquer dans un instant cette nouvelle règle, hein, puisque c'est depuis le 1er janvier, des cartons jaunes. Ça y est, c'est tombé, on en attendait sur le tour. Maria, ils sont là, puisqu'il y a quatre coureurs, je crois, qui ont pris des cartons jaunes.
Oui, on n'avait pas eu depuis le début du Tour de France, on a eu quatre hier. Donc forcément, avec toutes ces chutes, il y a des coureurs qui ont été sanctionnés, dont Brian Cocquart. Alors, Brian Cocquart et Edouard Teuns prennent un carton jaune chacun à cause de la chute de Jasper Philipsen dans le sprint intermédiaire. Les deux autres cartons jaunes, c'est pour Davide Ballerini et Danny Van Poppel, qui prennent chacun un carton jaune pour la chute dans le sprint, juste avant le sprint final. Voilà. Ça fait 4 cartons jaunes, donc 2 cartons jaunes. Attention, parce qu'on en parlait
alors,
hier.
Alors la règle,
mais
c'est quoi?
Ouais, la règle, c'est 2 cartons jaunes égale une semaine de suspension. Donc ça veut dire que là, ils ont déjà tous un carton jaune. S'ils en prennent un deuxième, c'est exclusion du tour direct, parce qu'une semaine de suspension, c'est pas possible de faire le tour. Après, ça continue en fonction du nombre de cartons jaunes. 3 cartons, c'est exclusion pendant 14 jours. Et 6 cartons jaunes sur un an, c'est 30 jours de suspension. Voilà comment ça marche.
Ouais, Daniel, alors c'est 2 cartons jaunes dans les 30 jours. Après ça, voilà, ça, ça repart. Danny Van Poppel en a déjà 3, lui. Hein. Tu disais 6 sur une année. Depuis le début de la saison, il en a déjà 3 quand même. D'ailleurs, Danny Van Poppel, son carton jaune, c'est sur une vague qu'il fait dans le sprint final qui entraîne la chute de Cocquart, Penouette, etc. Manière, etc. Ouais. Voilà, mais pour revenir à Brian Cocquart, bah, je vais rester sur ma ligne. Pour moi, il ne fait pas de faute dans ce sprint. C'est un fait de course, c'est la faute à pas de chance. Et en plus de ça, il prend un carton jaune là-dessus. Donc cette règle des cartons jaunes, peut-être que l'idée est bonne. Deuxième coup de gueule en deux minutes. Cette règle des cartons jaunes, peut-être elle est bonne, mais elle est illisible. On ne sait pas, il n'y a pas de règle précise pour dire là c'est carton jaune. Là c'est eux dans leur tête, les commissaires, ils doivent avoir des règles un peu précises. Mais alors nous on les comprend pas. Des fois il y en a qui font des vagues énormes, ils chopent rien. Et là on a un Brian Cocquart qui prend un carton jaune. C'est un peu au pifomètre qui distribue ses cartons jaunes et c'est très difficile de savoir qui va être sanctionné ou non. Et du coup, même les coureurs, des fois, ils ont un fort sentiment d'injustice.
Nicolas Pelletier ira dans le camion VAR justement avec le commissaire qui distribue les cartons jaunes à l'arrivée à Mur de Bretagne pour essayer de nous expliquer un petit peu comment ça marche et comment justement il donne ces cartons jaunes, parce que parfois c'est pas toujours clair.
Mon problème de ce carton jaune, c'est que ça doit sanctionner un fait de course, une mauvaise manœuvre, on change de ligne, on freine trop fort, etc. Alors que pour Brian Cocquart, j'ai l'impression que c'est une sanction pour la
blessure.
Conséquence de la chute de Philipsen. Mais s'il ne fait pas de faute, il n'a pas de carton jaune, même malheureusement si Philipsen doit abandonner le tour. Donc de nouveau, cette règle, ce n'est pas clair. Malheureusement, l'UCI font souvent des règles qui ne sont pas très claires et celle-ci en fait partie. Et c'est très difficile depuis le début de la saison. Hein, c'est comme ça. Depuis le début de la saison, il y en a qui prennent des cartons jaunes, on ne comprend pas pourquoi. D'autres qui n'en prennent pas, on ne comprend pas pourquoi non plus. Donc ça serait bien qu'ils nous éclaircissent un petit peu là-dessus.
Bon, en tout cas, on surveillera attentivement la suite et peut-être le sprint intermédiaire. Oui, Jérôme, vas-y.
Ah, pardon. Ouais, d'autant plus que le manager général de l'équipe de Koenig-Alpecin lui-même a dit c'est un fait de course, il n'y a rien, Brian Cocquart n'a pas fait de mauvais mouvement, c'est un fait de course et donc c'est triste mais c'est ainsi. Donc quand on est un peu commissaire UCI, qu'on sait ce que c'est la conséquence d'un éventuel deuxième carton jaune pour Brian Cocquart, il faudrait aussi pouvoir réfléchir, messieurs, avoir un peu plus d'humanité. Et là, au commissaire UCI, si on est un peu sensé qu'on a d'humanité, Ricard qui s'excuse et le manager qui dit bon, il n'y a rien et nous, on n'est pas. Brian n'est en aucun cas responsable, on peut aussi annuler ce carton jaune. Ça, c'est possible. On attend un peu d'humanité du côté des commissaires UCI parce que suivre le Tour de France en bagnole ou depuis un studio, c'est quand même beaucoup plus facile que sur un vélo.
Ah, tu sais, c'est pas tous les jours facile hein, d'être dans un studio avec les énergies même qui nous entourent. En revanche, il y a des gens très bien ici qui nous amènent un petit café pendant l'émission. Ça, c'est formidable.
Les serveurs sont très sympas dans ce camion.
Tiens, on va faire un top course puisqu'on se rapproche tranquillement des informations de 15h. Et puis, on fera les paris aussi dans quelques instants. Allez, le top course de Maria Zé.
117 km de l'arrivée. Pierre-Yves, toujours 2 minutes d'avance pour l'échappée composée de 4 coureurs: Casper Asgreen, Lenny Martinez, Thomas Gachignard et Jonas Abrahamsen. 2 minutes d'avance pour eux sur le peloton, toujours mené par l'équipe Alpecin de Koenig de Mathieu Van Der Poel, le maillot jaune.
Et pour l'instant, le terrain est encore à peu près plat, il est ensoleillé aussi et il n'y a pas trop de vent, semble-t-il. C'est correct.
Ouais, le vent est beaucoup moins fort que sur les étapes précédentes et en plus, il va aller un petit peu en diminuant au fur et à mesure de l'étape. Et on rappelle que dans les 50 derniers kilomètres, surtout dans les 30 derniers, ça sera très up and down. Donc ça va moins gêner les coureurs. Donc il n'y aura pas de problème, pas de risque de bordure aujourd'hui, même si le peloton est quand même bien étiré. Mais aucun risque de bordure aujourd'hui.
Le vent est moins fort, on entendait Jérôme qui le précisait, peut-être plus moins fort qu'à l'arrivée. On va voir si vous êtes plus fort, vous, ou moins fort qu'hier pour ce qui est des paris.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et les paris, c'est avec Johan Bredov. Salut Johan.
Salut tout le monde, comment ça va?
Bah, très bien, très bien.
Le chef n'est pas là, tu dois te régaler, Pierre.
Bah, les souris dansent, bien sûr.
Enfin, une bonne émission sur ce tour.
Oh oui, et puis je pense, il m'a dit je vais vous écouter, mais bon, oui. À ce temps-là, je sais très bien ce qu'il fait, je connais son programme.
Et est-ce qu'on va avoir des bons paris aujourd'hui? Parce que je suis désolé, on a failli avoir de la corruption hier.
Non, ben alors oui, d'accord. Oui, parce que faut rappeler que Jérôme Pinot avait parié sur Jasper Philipsen. Tous ceux qui ont parié sur Jasper Philipsen hier, hein, sur le site de notre partenaire, ont voulu leur pari remboursé, évidemment, comme il a quitté la course avant la fin. Donc le pari de Jérôme Pinot est remboursé. Il m'a pas renvoyé d'autres paris, donc voilà, il a juste gardé ses 10 euros. Ouais, il m'a remboursé, bien sûr, évidemment.
Alors qui commence à parier aujourd'hui? C'est moi toujours.
Bah oui, c'est toi, Pierre-Yves.
Ah, je suis toujours dernier.
C'est toujours toi.
Bah oui, bah, toujours dernier.
Eh bien aujourd'hui, j'hésite, hein, forcément, et c'est un peu pouf. Je vais dire Tadej Pogacar.
Allez, Pogacar, je vous ai pas donné les codes. Tiens, bah, les deux favoris, hein, Pogacar et Van Der Poel, qui sont cotés tous les deux à 3. Ensuite, on a Vingegaard, Vauclin, Grégoire, coté à 15. Matteo Jorgensen, coté à 25. Donc je prends ton pari Pogacar à 3. Sachez que j'ai demandé au chef Cessieux son pari. Il avait dit en numéro 1, Mathieu Van Der Poel. Donc voilà. On ne pourra pas choisir Mathieu Van Der Poel. C'est Christophe Cessieux qui a pris le néerlandais. Jérôme Pinot, c'est à toi de parier.
Et ben, puisque les deux grands favoris sont déjà pris par les plus mauvais d'entre nous, je vais essayer d'être un peu moins mauvais qu'eux. Et je vais dire Romain Grégoire.
Allez, Grégoire, côté à 15. Jérôme Coppel, à toi.
Eh ben, pour moi, ça sera Jonas Vingegaard, mon favori. Et oui, il tente depuis le début. Je pense qu'il va de nouveau tenter sa chance aujourd'hui.
Donc c'est à moi. Et je vais parier sur le local de l'étape, en fait. Kevin Vauclin, côté à 15. Maria, c'est à toi.
Bah, je voulais prendre Kevin Vauclin.
Bah, je sais bien.
Voilà, il s'est déjà pris. Qui c'est Romain Grégoire, il est pris?
Grégoire est pris par Jérôme Pinot. Il te reste... Matteo Jorgensen, Wout van Aert, Julien Alaphilippe.
Je te fais la photo. Johan, c'est que Jérôme Coppel est en train de proposer
Jérôme Coppel est en train de me proposer Julien Alaphilippe, mais j'avoue, j'ai pas confiance en ton pari.
Je t'envoie pas dans la caillasse, là.
Non, je vais plutôt prendre Matteo Jorgensen.
Alors là, tu vas toute seule dans la caillasse, apparemment. T'as pas besoin de moi, donc c'est bien, c'est très bien. Je te donnerai des nouveaux conseils.
La cote de Matteo Jorgensen.
Elle est à 25. C'est pas mal quand même. Il est plus favori que Julien.
Si je gagne, je prends une grosse avance.
On la reverra à Montmartre.
Ouais, bah oui, c'est ça.
Merci beaucoup, Johan. On fera le point tout à l'heure, évidemment.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
114 km encore à parcourir sur cette quatrième étape du Tour de France. 2 minutes d'avance pour les hommes de tête. On se retrouve dans quelques instants après les infos de 15h.
RMC, Intégral Tour.